partager votre lettre dès la semaine prochaine avec les auditeurs du Courrier mondial. Écrivez à Radio-Canada International, boîte postale 6000, Montréal, Canada, H3C3A8. Retrouvons Stéphane Parent.
Alors, soyez le ou la bienvenue à votre courrier mondial du 8 mai, rediffusé plus tard en semaine sur Radio-Canada International. Aujourd'hui, notre technicienne, Linda Pine. Au programme, découvrez encore plus le Canada et son histoire grâce à nos nouvelles archives en ligne, sonores et visuelles. Un auditeur raconte l'histoire de la Norvège, petit pays courageux de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est la reddition de l'Allemagne, les Canadiens libèrent les Pays-Bas.
Dans les années futures, des parents européens conduiront leurs enfants jusqu'aux tombes de ces vaillants soldats du Canada. Ils leur diront comment ils se rappellent les avoir vus venir de si loin pour défendre la liberté.
Et ça, c'était au début mai de 1945 à l'antenne de Radio-Canada. Aujourd'hui, donc, nous célébrons ensemble, avec vos commentaires et vos lettres, le 60e anniversaire de la reddition allemande. Et comme point de départ, j'ai cette lettre envoyée par une auditrice en Algérie, Mademoiselle Wali Taou, qui écrit « En quelle année RCI a commencé la diffusion de ses programmes ? Nous célébrons notre 60e anniversaire de naissance. Nous sommes nés le 25 février 1945, à peine un petit peu plus de 2 mois avant la fin de la guerre. » Sa deuxième question, « Quel est le moment fort de RCI depuis sa création ? » Certains vous diront que c'était lors de la couverture des Jeux Olympiques de 1976 ou en 1967 lors de la tenue de l'Exposition universelle à Montréal. Mais d'autres pourraient tout à fait aussi valablement vous suggérer que c'est en moment de guerre que RCI se distingue le plus. Il y a eu la guerre froide, il y a eu la guerre du terrorisme que nous menons toujours depuis 2001 et qui confirme notre statut, notre importance au niveau de la radiodiffusion internationale dans l'esprit des politiciens canadiens et puis aujourd'hui dans notre couverture de cette reddition des Allemands il y a 60 ans. J'ai cette lettre qui vient de France, une autre auditrice qui nous écrit, celle-là, il s'agit de Françoise Accard, à Neuilly-les-Mines, dans le nord de la France, donc cette région qui a joué un rôle capital, on le sait, non seulement lors de la Deuxième Guerre mondiale, mais de la Première Guerre mondiale, et c'est au sujet de cette Première Guerre qu'elle nous écrit, et au sujet du fameux monument laissé par le Canada sur le territoire français, le Mémorial canadien de Vimy. Et Françoise nous dit qu'elle se trouve à 7 km seulement de ce monument et qu'elle a bien l'intention d'y aller faire un crochet lors des événements de la reddition allemande pour souligner l'effort des Canadiens dans la libération de son pays. Mais en fait, le Mémorial canadien de Vimy, c'est assez impressionnant. Moi, je ne l'ai jamais visité, mais à chaque personne à qui j'ai parlé dans le passé, qui est passé par là, on en revient bouleversé. Il a fallu, notamment, pour ériger le mémorial en question, 11 000 tonnes de béton et de maçonnerie, seulement pour la base, 5 500 tonnes de pierre, importées de Yougoslavie, pour les pylônes et les sculptures. Et la construction de cet ouvrage gigantesque a commencé quelques années après la fin de la Première Guerre mondiale, en 1925. Il a été terminé 11 ans plus tard, en 1936, à peine 3 ans avant le début des hostilités de la Deuxième Guerre mondiale.
L'agence télégraphique suisse émet un bulletin spécial à l'occasion de la reddition sans condition de toutes les forces allemandes. En effet, Radio Flensbourg, contrôlée par les Allemands, a annoncé cet après-midi que l'amiral Dönitz avait ordonné la reddition sans condition de toutes les forces armées du Reich.
Patrice Duclos, à Perpignan, en France, donc au sud de la France, il dit « Je n'ai que 27 ans et je n'ai que les souvenirs d'un de mes vieux oncles aujourd'hui décédé malheureusement pour m'aider à mieux comprendre le sacrifice des Canadiens et de nos aînés pour libérer la France et l'Europe de l'occupation nazie. Quelle a été la participation des Canadiens? Combien sont morts? » Eh bien, Patrice, lors de la Première Guerre mondiale, 66 000 Canadiens sont morts au combat. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, 45 000 sont morts, notamment 7 600 dans la seule campagne pour libérer les Pays-Bas. Et c'est aux Canadiens que l'on doit la libération des Pays-Bas en fin de guerre autour du 5 mai. Et ils avaient reçu l'ordre, les militaires canadiens, de rejeter à la mer les troupes allemandes qui occupaient le nord-est et de chasser vers l'Allemagne celles qui occupaient tout l'ouest. Et le 5 mai, donc, toutes les forces allemandes qui se trouvaient aux Pays-Bas ont capitulé aux mains des Canadiens. C'était le premier corps canadien de la première armée du Canada qui s'est battu si longtemps en Sicile et en Italie, qui a été donc envoyé dans le nord-ouest de l'Europe au printemps 1945, et en faisait partie Charles Forbes, alors lieutenant-colonel.
Depuis 1940, c'est un peuple abusé, c'est un peuple exploité, c'est un peuple désorganisé. C'est un peuple où toute la jeunesse a été amenée à travaux forcés dans les usines. Et des enfants qui crèvent de faim, hein. Des femmes qui crèvent de faim, des fermes inondées. Il n'y a plus rien à manger en Hollande. Ils mangent les bulbes de tulipes.
Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'aller dans le cyberespace de Radio-Canada International à rcinet.ca. J'y ai laissé sur la page web du Courrier mondial deux hyperliens qui vous mènent aux archives sonores et visuelles pour voir et entendre la guerre vue par les Canadiens à cette époque.
Lorsque la nouvelle de l'armistice est arrivée à Halifax le soir du 7 mai 1945, le port ressemblait encore à ce qu'il avait été pendant toute la guerre, point de départ pour le front européen, des soldats et des armes. Mais le 7 au soir, la paix arrivée, soldats et marins ont décidé d'aller fêter ça en ville. Mais la ville avait fermé les bars. Alors ils ont ouvert les bars en passant non pas par les portes, mais par les vitrines. Le statisticien de l'époque affirme qu'il s'est pillé. Entre le 7 et le 8 mai 1945, à Halifax, 203 tonnes de bière et d'alcool. Mais peut-être le statisticien voyait-il double.
Je suis pas mal fier du secteur archives de Radio-Canada d'avoir mis ça sur pied et aussi d'avoir mis sur pied une autre section archives, celle-là consacrée uniquement à Radio-Canada International et à ses 60 ans d'histoire. Ce qui m'amène aux commentaires cette semaine de Michel Minouflet à Sergi Pontoise en France. Le site web de RCI est un modèle en son genre. Vous féliciterez de ma part le webmaster. Je ne trouve pas de nom français pour cela, mais dans votre prochaine leçon de Québécois au Courrier mondial, Monsieur Parent, vous allez m'en donner un, n'est-ce pas? Bien, j'ai trouvé rien de mieux que l'expression en usage ici à Radio-Canada qui est « chef web » ou « chef web » dans le cas d'une dame. Je pense que « webmestre », ça, je pense que c'est influencé beaucoup par la langue allemande, « Meister », qui est le maître, donc, en allemand. Et nous allons maintenant à la rencontre de Christine Simard, chef web des archives numérisées de Radio-Canada.
Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night.
L'objectif, c'est d'offrir aux internautes canadiens et partout à travers le monde une sélection des meilleurs moments des archives de Radio-Canada. Donc, c'est une sélection. La culture, les sports, les sciences, la technologie, la politique, l'économie, les guerres et conflits, les principales personnalités. C'est un site qui est constamment en évolution.
Et c'est facile pour un internaute de choisir une écoute, un extrait à partir d'une date.
Alors, le site est divisé. On peut y naviguer de différentes façons. Alors, il y a un index des clips par décennie. Il y a un index des dossiers qu'on retrouve aussi sous forme de catégories. Alors, par exemple, je vous dis la catégorie « guerre et conflit » va contenir peut-être une vingtaine de dossiers qui portent sur les guerres ou les conflits auxquels le Canada a participé. Mm-hmm. Il y a également une ligne du temps. On peut naviguer à ce moment-là par date, par décennie, voir un peu les dossiers les uns par rapport aux autres dans le temps.
Le petit concert que vous venez d'entendre, eh bien, c'était simplement quelques jeunes Coréens qui sont employés ici à rendre des services, à aider parfois à porter les munitions, l'approvisionnement, et qui le soir se réunissent avec les soldats du bataillon et qui parfois jouent leur propre musique. Cette air que vous avez entendu, c'était évidemment Auld Lang Syne de nos amis anglo-saxons, mais il paraît que l'air de Auld Lang Syne est aussi l'hymne national des Coréens.
Et vous, vous aviez la responsabilité, Anne-Caroline, de travailler sur le dossier anniversaire de Radio-Canada International.
Alors, j'ai sélectionné, en fait, les archives concernant Radio-Canada International que nous avions nous-mêmes à Radio-Canada, donc au sein de nos archives radiophoniques et télévisuelles, en fonction de leur pertinence et des principaux jalons qui ont constitué l'histoire de Radio-Canada International depuis sa création en 1945, donc le 25 février 1945. Autour de ces archives audiovisuelles et radiophoniques, j'ai scénarisé une histoire que vous pouvez retrouver sur le site des archives.
Parlez-moi de cette mise en contexte. Qu'est-ce que ça veut dire pour la section de Radio-Canada International?
Une mise en contexte, en fait, signifie scénariser une histoire à partir des archives dont on dispose, raconter à l'internaute l'histoire que l'on veut lui présenter à travers ces archives-là.
Il faut que ce soit bref.
Il faut que ce soit bref, il faut que ce soit concis, avec des termes bien spécifiques.
C'est simplement d'adapter un peu notre ton à un public aussi plus jeune qui n'a pas vécu ces années de radio et de télé. Alors, on reçoit une partie de notre financement presque intégralement du Fonds Culture canadienne en ligne. Et dans ce volet-là, on doit s'adresser notamment aux jeunes du secondaire en grande partie et du collégial.
Anne-Caroline Crispel, journaliste au site des archives, merci beaucoup.
Merci à vous.
Puis merci beaucoup à la chef web de nos archives numérisées. Merci, à la prochaine.
Merci à vous.
Il s'agissait de Christine Simard.
This is Canada calling.
Je souhaite que nos marins, nos soldats, nos aviateurs, nos jeunes femmes des services armés, nos gardes-malades, tous nos Canadiens et Canadiennes aux écoutes un peu partout dans le monde trouvent dans ce programme, en même temps qu'un délassement réconfortant, une vivante évocation du pays qu'ils ont momentanément quitté et qui attend, pour bientôt, espérons-le, leur retour triomphant.
Et maintenant, la lettre de la semaine. Et cette lettre de la semaine arrive par courrier électronique envoyé par Philippe Marsan en France. Philippe écrit « J'aimerais vous parler de la Norvège, ce petit pays de l'Europe du Nord dont on parle peu, pourtant un pays et un peuple qui a beaucoup fait durant la Deuxième Guerre mondiale. Ceci s'est passé en 1939, alors que la guerre mondiale se préparait. Il y avait dans les hautes montagnes de Norvège une usine qui fabriquait de l'eau lourde. C'est tout simplement de l'eau, mais dont l'atome d'hydrogène, le déthérium, possède une masse plus élevée que celui contenu dans l'eau ordinaire. Élément qui peut devenir dangereux dans la mesure où, par une réaction physique, il est possible d'éclater ce noyau, créer une réaction en chaîne et générer malheureusement une bombe de type H. C'est alors que l'ambassadeur allemand de l'époque demande à être reçu par les autorités norvégiennes, faisant savoir que le chancelier du Reich avait besoin de ce produit dans le cadre d'expériences au nom de la Grande Europe. La Norvège décida alors de stocker cette eau lourde dans des bidons spéciaux et de l'envoyer par avion à Paris. Destination, les laboratoires du Collège de France. Mais l'avion fut pris en chasse par la Luftwaffe et contraint d'atterrir en territoire ennemi. Cependant, les Norvégiens, anticipant cette agression, avaient transféré la précieuse cargaison dans un autre transport aérien. Adolf Hitler, vexé de ce stratagème, l'usine fut mise sous haute surveillance et gérée par l'occupant. Mais la résistance norvégienne n'en resta pas là et parvint avec un commando à détruire les installations à l'explosif afin que les nazis n'aient pas ce précieux liquide. Malheureusement, ce qui est horrible, c'est que quelques années plus tard, en août 1945, il y a presque de cela 60 années, deux bombes détruisirent Hiroshima et Nagasaki au Japon. Aujourd'hui, les plaies ne sont pas encore cicatrisées. Des femmes et des hommes souffrent de maladies incurables. Quelle folie de l'être humain que de vouloir détruire son prochain. L'atome peut tuer, même à des fins civiles, une centrale électrique nucléaire. On l'a vu il y a quelques années, en Ukraine.
Après la reddition de l'Allemagne, 32 000 prisonniers de guerre sont détenus dans les camps canadiens. RCI diffuse des émissions en allemand jusqu'au cœur des camps, dans l'espoir de réformer les nazis en leur montrant une vision du monde plus généreuse. Un jour, des techniciens et des réalisateurs du service anglais en visite tombent sur des soldats allemands en train de chanter dans un baraquement.
These are German soldiers singing Gluck from an army shack in one of our prisoner of war camps.
Tous les auditeurs dont j'aurai lu la lettre aujourd'hui en ondes vont recevoir ce disque sur l'histoire, les 60 ans d'histoire de Radio-Canada International, où il est abondamment question, donc, des périodes de guerre. Et j'ai une autre surprise à vous faire, un autre invité à vous faire découvrir, et il œuvre dans le monde des sans-filistes qui jouent souvent des rôles très importants en temps de crise, que ce soit la guerre, que ce soit crise naturelle, etc. L'Union métropolitaine des sans-filistes de Montréal peut compter sur la participation d'un homme de 74 ans qui s'appelle Jean-Guy Renault, qui connaît toute une tranche de l'histoire des sans-filistes au Québec. En fait, il vient de produire un premier tome de 1912 à 1990, l'histoire du monde des radioamateurs du Québec, et le voici. Monsieur Renault, bonjour.
Bonjour, Monsieur Parent.
À partir de quelle année, là, on peut dire qu'il y a des gens comme vous et moi, qui sont des radioamateurs, qui commencent à communiquer entre ici et l'Europe, par exemple?
Dès qu'il y a eu la radio, il y a eu des expérimentateurs amateurs.
Les outils évoluaient constamment.
Absolument, sauf qu'il n'y avait pas de réglementation comme telle. Alors, n'importe qui pouvait faire la radio amateur concurremment aux découvreurs.
Mais là, ils sont arrivés deux guerres. Et le gouvernement a serré la vis à ce moment-là.
Beaucoup. La Première Guerre mondiale, la radio était encore en son enfance, évidemment. Ça débutait à peine. Et tout ce qu'il y avait, c'était des transmetteurs à étincelles. Alors, les longueurs d'onde étaient extrêmement longues. Les interférences aussi étaient très, très probantes, très, très fortes. Puis d'autant plus que durant la guerre, les radioamateurs étaient totalement interdits de communication. Aussi bien durant la Première Guerre que la Deuxième. En 1940, au début de 1940, les radioamateurs ont reçu un avis d'Ottawa les interdisant totalement d'utiliser leurs émetteurs. C'était pour des raisons d'espionnage, surtout. Les autorités avaient un peu peur que les Allemands ou les pays avec qui on était en guerre à ce moment-là se servent de leurs radioamateurs pour transmettre des messages importants. Probablement que je l'explique aussi dans mon livre, mais à la BBC de Londres, il y avait des émissions sur la radio régulière qui commençait invariablement par la cinquième symphonie de Beethoven, avec le dididida. Alors, dididida en code, c'est le V pour victoire et le fameux V de Churchill avec ses deux doigts et son cigare dans le temps. Alors, quand une émission commençait avec ce fameux thème de Beethoven, ça signifiait qu'à l'intérieur de cette émission-là, il y avait un message important.
Mais dites-moi, au Québec, là, si on était radioamateur, je ne sais pas combien il y en avait, peut-être 5 000 dans ce coin-là?
Oh, à ce moment-là, non. Au début de la guerre, il y avait peut-être 2 000 amateurs, 1 500, 2 000, pas beaucoup plus que ça.
Qu'est-ce qui arrivait si, je ne sais pas si ça s'est produit, vous pouvez nous le dire, quelqu'un qui décide, de malgré l'interdit, de transmettre?
Non, ça ne s'est pas produit, parce que si quelqu'un avait été pris à transmettre malgré l'interdit, il serait ramassé en camp de concentration, tout simplement, et son appareil aurait été saisi sur le champ.
Il serait ramassé comme les Japonais de la côte ouest canadienne dans un camp de concentration.
Oui, et nos Italiens de Montréal aussi.
Aussi, c'est vrai. Arrive donc la fin de la guerre, c'est donc l'époque où enfin on peut sortir des placards son équipement. Qu'est-ce qui se passe? La technologie, bien sûr, a évolué durant la Deuxième Guerre mondiale.
Bon, à la fin de la guerre, ce qui est arrivé, c'est que, pour commencer, le surplus, les radios de surplus de guerre inondaient le marché. On pouvait se procurer un appareil, un transmetteur-récepteur, pour la somme d'à peu près 20 $ ici à Montréal. Alors, les amateurs se procuraient ces appareils-là. Et je peux vous dire que c'était la folie furieuse. Il y a même des gens qui ont transmis sans avoir les autorisations nécessaires, parce que, comme vous le savez, ça prenait une licence fédérale pour opérer. Alors, il y en a qui se sont fait prendre, mais à ce moment-là, disons que les autorités étaient plutôt douces avec eux. Ouais. Alors, il n'y a pas eu vraiment d'emprisonnement ou de saisie d'équipement, mais des avertissements relativement sévères.
C'est donc Jean-Guy Renault, de notre association, l'Union métropolitaine des sans-filistes de Montréal. Et maintenant, voici quelques-unes de vos réactions aux questions mondiales des dernières semaines. Une autre lettre de Philippe Marsan à Lenton en France. À quoi ressemblera RCI dans 60 ans lors de son 120e anniversaire de naissance? Je pense que l'on s'acheminera vers des liaisons Internet dites sans fil. Un plus, mais la philosophie de la radio restera. Je pense, Monsieur Parent, que vous êtes un précurseur en la matière. Vous avez apporté l'interactivité. L'auditeur est devenu acteur de sa radio, RCI étant sa radio francophone, et ce, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion, sa couleur, ses idées, sa culture, tous rassemblés en une grande amitié autour d'un poste francophone, à évoquer, à discuter, à échanger sur les grands philosophes et idées qui animent le monde de ce siècle nouveau. Oui, Monsieur Parent, vous êtes dans la bonne voie et la bonne voie de la radio moderne, et ce seront nos enfants qui nous le diront, car dans 60 ans, bien sûr, je ne serai plus de ce monde pour vous le conter. Youssoufi Mega, qui habite en République du Mali, à Ténékou. Vous ressemblerez à une radio encore plus grande, qui va créer beaucoup d'autres émissions, qui sera plus connue à travers le monde. Vraiment, je veux que la RCI augmente ses heures d'écoute. Une heure, c'est très peu par jour. RCI, voici mon nouveau slogan, un monde sous nos oreilles.
C'est vrai, je l'avoue, j'écoute la radio la plus écoutée, la plus appréciée par l'auditoire français. Radio-Canada International.
La semaine prochaine, une autre édition spéciale du Courrier mondial où, cette fois-là, on s'attachera plus aux besoins d'écoute de nos auditeurs en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Et pour le moment, si vous le permettez, une lettre du Cameroun envoyée par Monsieur ou Mama Nana Ismala. Est-ce qu'il y a une ville qui s'appellerait Paris au Canada? Si oui, dans quelle province se trouve-t-elle? A-t-elle une quelconque relation avec Paris en France? Non, pas du tout. Enfin, non, c'est-à-dire... Oui, il y a une ville qui s'appelle Paris au Canada, mais non, elle n'a pas de relation avec Paris en France. Elle est d'ailleurs beaucoup plus petite que Paris en France. C'est une ville qui compte environ 50 000 habitants. Elle se trouve en Ontario, donc près du centre du Canada, en fait à une quinzaine de kilomètres du centre-ville de Toronto. Et le slogan de la ville, c'est « Prettiest town in southern Ontario ». La plus belle ville du sud de l'Ontario. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas passé par là, mais lorsque je suis passé sur l'Internet pour chercher les informations sur Paris en Ontario, il y avait des vents de 28 km/h, des rafales de 37 km/h, avec de la pluie et également une visibilité réduite à 1 km/h. La température comparable à Paris, 9 degrés Celsius, nuageux, avec quelques éclaircies, cependant, faible averse de pluie.
ABC DX.
Benoît Senevre, bonjour.
Bonjour.
Il y a quelques semaines, nous avons parlé ensemble des changements au service de radio par satellite WorldSpace. Le service était gratuit. Une fois qu'on avait acheté le récepteur spécial, c'était l'entente. Or, depuis le 15 avril, le service est disponible seulement sur abonnement payant.
Oui, et cette semaine, nous allons citer les opinions de deux auditeurs en France sur le sujet.
Le premier auditeur est Monsieur Frédéric Dupuis de Frontignan en France. Il est hors de question de payer 10 $ par mois américains pour la réception. À ce sujet, j'ai bien fait d'attendre, car il y a quelque temps de cela, j'ai failli franchir le pas d'acheter un de ces récepteurs WorldSpace. C'est du vol ou du racket.
Oui, je comprends bien votre déception, Monsieur Dupuis. Cela ne me semblait pas tellement juste d'avoir un service gratuit pour attirer les usagers et de changer pour un service payant par la suite.
Nous avons aussi reçu les commentaires de Monsieur Pierre Collomb d'Amiens. Comme vous le savez, je vous écoute depuis la fin janvier 2004 sur WRN2 via le réseau WorldSpace. Aussi, lorsqu'il y a environ un mois, une bande annonce indiquait qu'à partir du 15 avril, WRN2 serait crypté, j'ai été fort étonné.
Monsieur Colomb a su, en contactant WorldSpace, qu'il n'était pas possible d'abonner seulement à WRN2. Il fallait s'abonner à un bouquet de environ 40 chaînes, dont 6 seulement avaient une contenue en langue française.
Et Monsieur Colomb continue, l'abonnement annuel s'élève à 100 €, taxes incluses, à payer en une seule fois. Il est certain qu'une telle somme est très importante et pas forcément à la portée de tous. Néanmoins, il faut constater que WRN2 ne diffuse pas de publicité et convenir que la réception et l'écoute sont excellentes et que toutes ces techniques ont bien sûr un coût. J'ai donc souscrit à cet abonnement et j'espère pouvoir continuer à écouter RCI sur ce réseau.
Voilà une opinion tout à fait opposée à celle de M. Dupuis. Cela dépend évidemment des besoins et des sentiments de chaque auditeur.
Et nous aimerions avoir encore d'autres opinions de nos auditeurs sur cette question des abonnements payants de WorldSpace. Si vous écoutez Radio-Canada International sur WorldSpace, avez-vous décidé de vous abonner à nouveau, oui ou non, et pourquoi?
Et nous aimerions aussi avoir les opinions de nos auditeurs africains, dont quelques-uns nous écoutaient sur WorldSpace avant les abonnements payants. Alors maintenant, payerez-vous l'abonnement ou non?
Benoît Sunévu, merci beaucoup, puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Mais écoutez, votre émission se termine, il est presque 22h. Hein?
J'entends.
Vous écoutez l'indicatif de Radio-Canada.
Ah oui.
Radio-Canada International.
Alors voilà, c'est tout pour le Courrier mondial spécial du 8 mai et une émission qui sera rediffusée plus tard en semaine sur Radio-Canada International. Notre technicienne, Linda Pine, adjoint à la réalisation, Boguslav Podorski. J'aimerais saluer une autre auditrice du Courrier mondial et de Radio-Canada International. Elle est très assidue, il s'agit d'Henriette Durand, à Libourne, en France. C'est la dernière participante en date de notre petit concours bien gentil, où je vous demande de me soumettre, de m'envoyer par le courrier, une photographie en bonne et due forme, avec à côté de vous, en bas ou en haut ou en dessous, peu importe, votre poste récepteur sur lequel vous écoutez donc Radio-Canada International. Faites-le, et si vous le faites, nous ajoutons cette photo dans notre album photo qui se trouve sur la page web du Courrier mondial à rcinet.ca. Ici Stéphane Parent à Montréal, à la semaine prochaine.
Nous aimerions recevoir de vos nouvelles par la poste traditionnelle. Écrivez-nous au Courrier mondial, Radio-Canada International, case postale 6000, Montréal, Québec, Canada, H3C 3A8.